marquant et finalement si peu connu. Vous avez écrit, Hélène Maquet, elle a lu votre ouvrage.
Oui, La princesse insoumise, c'est le titre de ce livre. C'est l'histoire d'une femme incroyablement belle. Elle fut une époque où on disait qu'elle comptait parmi les 10 plus belles femmes du monde. Une princesse indienne née dans un univers quasi médiéval, celui des Maharajas et de leur palais au début du siècle, fille d'un petit royaume du nord de l'Inde, Gayatri Devi, surnommée toute sa vie Ayesha, fille de Maharaja et de Maharani, petite fille de Maharaja et de Maharani, devenue elle-même Maharani de Jaipur, est née d'une famille progressiste, éduquée entre l'Inde et l'Angleterre, polyglotte. C'est une enfant qui aime les animaux, les éléphants particulièrement, et qui connaît l'importance de l'éducation pour s'émanciper. C'est quelqu'un qui toute sa vie va lutter pour l'indépendance de sa pensée, devenue Maharani donc de Jaipur, très amoureuse de son mari dont elle était la troisième femme. Elle va créer une école pour les jeunes filles qui sont encore soumises au purdah. Elles doivent vivre à l'écart des hommes. Ayesha est une femme du monde. Elle a rencontré aussi bien Gandhi que les Kennedy. Elle va ensuite se présenter en politique. Elle sera élue en 1960. Elle s'est éteinte en 2009.
Voilà pour un portrait. Jean-Noël Lio, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette princesse indienne? Ça a été quoi votre déclic à vous? Comment avez-vous fait sa connaissance?
Alors j'ai fait sa connaissance à l'âge de 13-14 ans. Par des amies indiennes. Et elles savaient que j'étais passionné par des caractères de femmes intenses comme ça. Et donc, j'ai commencé à enquêter sur elle, à lire beaucoup. Elle était toujours dans mon esprit, dans mon imagination. Mais comme vous le disiez, je me suis aperçu que les verdicts de l'histoire sont cruels. Elle était oubliée. Et je me suis dit, avec une vie aussi intense, aussi incandescente, au service de tout ce qui nous semble aujourd'hui normal, la cause des femmes, des minorités, des enfants, des animaux, elle a inventé tout ça dès les années 40-50, en soulevant des montagnes, vraiment en rencontrant des obstacles. Et je me suis dit que ce destin méritait d'être partagé avec mes lecteurs.
Alors, on l'a dit, Gayatri Devi a été élue au Parlement indien en 1960. On a retrouvé des images d'elle dans nos archives. C'est un reportage de 1967. Les caméras de la RTBF allaient visiter le palais du Maharaja de Jaipur. Écoutez bien le commentaire du journaliste.
Man Singh II et son épouse. La Maharani est députée à New Delhi. Pour l'élire, il a suffi d'un discours de son mari et d'une proclamation affichée dans les villages du Rajasthan. Elle a écrasé ses adversaires avec une majorité de 85% et est devenue une députée redoutée par son savoir. Personne ne sait très bien si c'est sa culture ou sa grâce qui l'emporte dans les débats. Peut-être les deux à la fois.
Alors c'est un reportage qui date de 67.
Ça me donne la chair de poule. C'est-à-dire un commentaire, j'en perds mes mots, complètement misogyne, effrayant. Quand on voit les campagnes électorales qu'elle a fait, quand on voit l'intelligence, la force de conviction, son mari était là, mais il a été d'ailleurs très englouti dans la lumière d'Ayesha. Et c'est, en fait, c'est épouvantable. Mais c'est très très bien, parce qu'on voit justement l'évolution. Plus personne n'oserait écrire ça aujourd'hui.
Et la présenter comme ça.
C'est tellement condescendant et
mufle. C'est intéressant parce que c'est un reportage qui dure 35 minutes. On ne parle que du Maharaja et il y a les 30 secondes pendant lesquelles on évoque cette femme qui, à l'époque, est déjà députée.
Bien sûr. Ah oui, parce que c'est son deuxième mandat en 67. Et donc, c'est quand même quelqu'un, quand on voit les campagnes électorales qu'elle a menées, s'opposant à toutes les formes de corruption, déstabilisant, parce que quand même, au Parlement, elle a pris position contre Nehru, donc Indira Gandhi, sa fille, on lui a avoué une haine implacable, la jetant en prison. Enfin, sa vie est tout sauf ça. C'est-à-dire, c'est une vie de force, de caractère, de conviction. Aucune reine de l'époque n'a jamais fait ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire, penser que l'éducation serait l'outil pour les femmes, pour devenir des êtres matures, indépendants, et faire l'Inde contemporaine. Parce qu'il faut vous dire que la vie de cette femme est liée au chaos indien qui...
C'est quelqu'un qui a vraiment traversé le XXe siècle indien.
C'est-à-dire que l'Inde devient indépendante en 1947 et elle crée son école en 1943. Parce qu'elle est farouchement école de filles, première école pour filles, au Rajasthan. Et aujourd'hui, cette école est la meilleure école de l'Inde. Toutes les femmes les plus brillantes de leur génération sont sorties de cette école. Citons seulement Meera Kumar, qui est la première femme à être présidente du Parlement indien, qui était une intouchable. Parce qu'en plus de tout faire pour aider les femmes, elle avait aboli dans son école le système des castes. Donc des brahmanes pouvaient côtoyer des intouchables. Donc ce qu'elle a fait, sa contribution est si immense, et l'a résumée à une espèce de jolie fleur comme ça, gracieuse.
Vous avez l'impression de lui rendre justice ?
Oui, justement. Moi, en tant qu'écrivain et en tant que biographe, souvent, ce sont des opérations de sauvetage, des biographies. Et particulièrement pour les femmes, parce que moi, j'ai mis ma plume au service des femmes. Des femmes comme ça ont été tellement bien avant les acquis du féminisme, elles se sont battues. Elles ont pensé justement que le savoir était la clé de tout. Sans savoir, on ne peut pas. Et c'est ça qui justifie non seulement sa trajectoire, mais c'est une trajectoire très longue qui épouse les chaos de l'histoire et qui, elle est une guerrière, si vous voulez. Elle a aussi des tragédies intimes. Toute sa famille est décimée par l'alcoolisme. Elle va en prison. Elle est toujours là. Mais quand elle est en prison, eh bien, elle crée une école pour apprendre à lire, à écrire aux enfants des prostituées avec lesquelles elle est en prison. Mmh. Donc, c'est fascinant. Chaque facette de son existence est fascinante.
Quand on dit qu'elle était écologiste, féministe, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que dans le contexte qui était le sien, qui est quand même celui de la très grande aristocratie indienne, mais aussi de la grande aristocratie britannique, parce qu'au moment de la colonisation, elle va énormément en Inde. Est-ce que c'est une forme de relecture avec nos lunettes d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un dont on peut dire qu'elle est écologiste, féministe?
Alors, elle ne se pensait pas comme telle. Elle était une femme affranchie et émancipée. Je pense que le concept de féminisme tel qu'il est arrivé par la suite lui était étranger quand elle avait ses combats. Toujours est-il que moi qui ai sillonné l'Inde pour enquêter sur elle, toutes les femmes se mettent au garde à vous. Hein. Il y a un avant et un après. Elle est une icône pour les féministes parce qu'elles lui doivent tout. Quant à l'écologie, je veux dire tout ce qu'elle a fait, elle a compris avant tout le monde qu'il fallait justement sauver non seulement les terres mais les animaux. Le premier sanctuaire pour les animaux à Jaipur, c'est elle qui l'a créé, l'association Elephant Family. Elle se bat pendant 40-50 ans. Elle est membre fondateur du WWF. Donc elle est tout ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il y a toujours des tentatives de relecture. Quand on voit les films de Jane Austen aujourd'hui, toutes les héroïnes de Jane Austen sont féministes. Non, il faut faire attention à ça. C'est une tentation, mais il est vrai que tout est là. Tout ce qu'elle a inventé avant tout le monde, ce sont devenues les causes actuelles des femmes.
Vous disiez que vous aviez à cœur dans vos livres de réhabiliter des personnages, des héroïnes. Je trouve qu'à la lecture de votre livre, vous réhabilitez aussi une histoire, un pays, l'Inde, en fait. Finalement, il y a énormément de références, il y a un rayonnement culturel de l'Inde dont on n'a plus forcément conscience aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui était aussi important pour
vous. Oui, absolument, parce que c'était une femme et un pays pour moi. Elles sont indissociables et surtout qu'elles s'inscrivent, comme vous l'avez très justement dit dans votre présentation, dans des lignées de souverains qui règnent sur l'Inde depuis des siècles. Et elle est descendante de cela. Elle en a une conscience aiguë. Et donc, il fallait toujours sauvegarder les patrimoines indiens, les faire partager, et tout en inscrivant l'Inde aussi dans le monde contemporain, parce que c'est devenu, à partir de 47, la plus grande démocratie indienne, dans le chaos, parce qu'il y a la partition. Là, une fois de plus, elle et son mari sont exemplaires, parce qu'à Jaipur, on ne touchera pas un cheveu des musulmans. Alors que dans les autres États, il y a des bains de sang effrayants. Donc, c'est vrai, ils ont fait de Jaipur le laboratoire de l'Inde contemporaine. C'est aussi ceux, puisqu'on parle de patrimoine, qui ont transformé les premiers, leur palais, en musée. Jamais on avait.
Et en hôtel de luxe.
Et en hôtel de luxe, les deux, l'hôtellerie et la culture. Parce qu'ils se disaient, nous avons perdu nos privilèges avec l'indépendance, tout ça n'a plus de raison d'être. Il y a un côté darwinien, si vous voulez. On s'adapte ou on disparaît. Et ce flair-là, ça me fascine beaucoup aussi.
Donc, vous avez enquêté longtemps pour faire connaissance avec elle. Comment vous vous y êtes pris? Vous avez rencontré ses proches.
Oui, qui témoignent pour la première fois. Alors ça, c'est vraiment. C'est pour moi très très important pour tous mes livres. Ça dure des décennies en fait. Je me lève pas un matin en disant je vais commencer à écrire. J'accumule des rencontres, des voyages, des lectures. Là j'ai rencontré tous ces proches et ce sont des proches qui demandaient à être convaincus. C'est pas parce qu'on écrit à quelqu'un qui dit tiens qu'est-ce que c'est ce garçon, pourquoi il a envie de. Donc il faut montrer qu'on est légitime pour ce projet-là. Et voilà, ils ont été convaincus. Et d'ailleurs, suite à la publication du livre, ils m'ont dit « Nous avons découvert des facettes de notre ami qu'on connaissait depuis 40-50 ans grâce à ça ». C'est aussi ce travail d'enquête qui est très important. Tous les éléments, d'ailleurs, ne sont pas utilisés dans le livre. Mais je pense qu'entre les lignes, ça enrichit la perception qu'on a du personnage et surtout d'essayer de la capter dans toutes ses ramifications. C'est-à-dire que c'est un personnage protéiforme. Il y a des gens qui ont moins de branches à leur arbre. Elle est quand même tout à fait étonnante.
La biographie va être traduite en anglais pour que les Indiens puissent avoir accès à cette histoire.
Oui, ça je l'espère. Ouais. C'est difficile, mais je l'espère de tout cœur.
Bon, ben on vous le souhaite. Alors.
Merci beaucoup.
Merci.